car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de novembre de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps, une coproduction Principe Actif et Le Tangramme. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors, ce mois-ci, sur le mois de novembre, nous prendrons le temps, une fois de plus, de parler de spectacles vivants. Mais aujourd'hui, avec une émission en boîte, pourrions-nous dire quasi.
Presque en boîte. On est quand même là au plateau et nous, on est là et bien présents.
Donc au sommaire de cette émission, nous parlerons Galilée.
Oui, Galilée, homme scientifique quand même, hein. Et pourtant, elle tourne, cette terre. C'est une résidence de création de la compagnie La Jeunesse Aimable qui vous est proposée le 14 et 15 novembre à Évreux, au Théâtre Le Gendre. Et nous aurons au micro son metteur en scène, auteur et metteur en scène, en la personne de Lazare Herson-Macarel.
Nous parlerons livres également.
On se fera un petit focus sur le 10e Salon du Livre Jeunesse, duquel le Tangramme est partenaire avec le réseau des médiathèques publiques. Et on parlera un peu plus spécifiquement des deux spectacles qui sont proposés tout le long du week-end.
Nous ferons un agenda non exhaustif des spectacles qui vous attendent sur ce mois de novembre. Nous terminerons par un extrait de film, comme à notre habitude.
Surprise.
Ouais, on n'en dit pas plus.
Ouais, on n'en dit pas plus, une petite surprise.
Bah, même nous, il y a encore débat. Hein.
Ouais,
on va tout vous dire.
Le vote n'est pas calé.
Mais nous avons quasiment une heure pour nous décider. Mais tout de suite, sans plus attendre, une autre de nos traditions, l'extrait sonore.
C'est Paul de Juno.
Thank you.
Alex ?
Ouais.
Ouais. Viens.
Viens.
On y va ?
Oui.
Quand tu veux.
Alors, Cécile, qu'avons-nous écouté ?
Eh bien, j'ai laissé traîner les micros de la radio dans la grande salle du Cube, au Tangram, à Évreux. Il se trouve que pendant les vacances, vacances pour tout le monde, en tout cas les vacances scolaires, nous avons accueilli l'équipe de Grand Metz. C'est une formation, un techno live band qui a posé ses valises pendant une petite semaine donc au Cube et qui a pu travailler un set. La semaine se terminait avec ce qu'on appelle une sortie de résidence. Donc ça veut dire que les artistes convient le public à venir entendre le premier rendu de leur travail, de ce montage de set. Donc là, c'était vraiment le vendredi, peu de temps avant, dans l'après-midi, où il faisait le premier filage du set qu'il présentait le soir en public, donc dans la grande salle du Cube. Pour tout vous dire, pour moi, ça a été une vraie découverte. Je connais pas trop le milieu de la techno, Et là, je par curiosité, j'ai donc laissé traîner mes micros, mais aussi mes oreilles et mes yeux, parce que là, il y a une dimension qu'on n'appréhende pas à la radio. C'est vraiment la dimension du plateau et de parce qu'il y a quand même un VJ en fait. Sur cette formation, ils sont trois musiciens sur le plateau. Il y a un batteur, il y a un clavier, et puis le dernier de mémoire, il travaille plutôt tout ce qui est son, donc électro, voilà. Et il y a un VJ et il y a tout un panel en fait de projections pendant tout leur set où eux, les musiciens sont dans l'ombre, donc on les devine au milieu des projections. Des projections lumineuses et vidéo, c'est clairement hyper envoûtant en fait. C'était une belle surprise parce que je me suis fait cueillir et si j'avais pu, j'aurais aimé rester toute l'après-midi avec eux pour découvrir. Voilà, c'est hyper puissant, c'est hypnotique, envoûtant et puis c'est une vraie belle découverte musicale aussi. D'ailleurs, je crois que le public qui est venu le soir était hyper content aussi de cette découverte. Grand Metz, ils sont soutenus par c'est pas une simple maison de production, hein, c'est vraiment une équipe qui est aussi une maison de création, qui diffuse, qui s'appelle la Station Service et qui en musiques actuelles porter une attention particulière aux projets qui sont un peu à la marge ou un peu innovants en fait. En musiques actuelles. Donc voilà, surveillez-les parce que je pense qu'on va entendre parler d'eux si ce n'est pas déjà fait.
Eh bien justement, je te propose que nous allions un tout petit peu plus loin en écoutant un extrait musical de Grand Metz. Voilà, c'était un très 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 court extrait, c'était juste pour mettre l'eau à la bouche.
C'est ça, vous mettre
en appétit. On les retrouve au Tetris, c'est ça ?
En fait, ils sont soutenus, ils sont coproduits par la Nef à Angoulême, par le Tangram bien sûr à Évreux, et par le Tetris au Havre, et on les retrouve le 29 novembre au Tetris au Havre à 22h.
Eh bien, c'est une fort belle idée. Comme cette émission, on a une belle visibilité sur le temps qu'il nous faudra pour boucler cette émission. Nous vous le disions, des interviews ont déjà été enregistrées. Nous avons l'opportunité de mettre une vraie pause musicale dès maintenant. Et Nathalie, tu avais choisi Papouze.
Oui, un groupe un peu en décalage, on va dire, c'est un groupe français, à la fois pop électro aussi, qui joue un peu sur la tendance des années 70, mais avec le goût du 21e siècle. Voilà, je vous propose une découverte de Papouze, et je crois que j'avais choisi l'extrait théâtral. Alors c'est en anglais, n'est-ce pas? Je vais essayer de prendre mon accent et de ne pas écorcher. Theatrical State of Mind. Nous sommes en direct du théâtre Le Gendre à Évreux avec Lazare Herson-Macarel et Chloé Bonifay. Tous deux font partie de l'équipe artistique de Galilée et de la compagnie La Jeunesse Aimable. Et nous prenons le temps de discuter, d'échanger avec eux autour de Galilée, spectacle créé et qui sera joué le 14 et 15 novembre ici même au Théâtre d'Évreux et dont la création se fait en ce moment même, voilà, aujourd'hui, mais depuis 15 jours, plus de 15 jours, au Théâtre Le Gendre.
pardon, Lazare, enchanté, merci de nous accueillir et de nous accorder du temps pour nous parler de votre compagnie, La Jeunesse Aimable. Et puis, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui vous fait arriver aujourd'hui à Évreux, dans ce théâtre historique à l'italienne Le Gendre, pour la création de Galilée? C'est quoi l'aventure de départ?
Alors, l'aventure, c'est celle de la compagnie de La Jeunesse Aimable, qui, pour la petite histoire, emprunte son nom à Rimbaud, Une saison en enfer. Dont un des passages dit « N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or ?» Et c'est cette idée à la fois d'allier poétique, nostalgie, énergie vitale dans le même esprit d'artiste que la compagnie s'est créée. Et effectivement, la compagnie a une longue histoire avec le Tangram et la ville d'Évreux, puisque nous sommes venus présenter Falstaff de Valer Novarina en 2016, puis Cyrano l'année dernière, d'Edmond Rostand, qu'on ne présente plus, et cette année, c'est la création donc de Galilée, qui, et on en est particulièrement honoré, sera donc la première création à avoir lieu dans le théâtre Le Gendre depuis sa réouverture et sa récente rénovation. Ce qui est effectivement, quand on croit au fait que les lieux ont une âme, ce qui est effectivement un moment toujours émouvant quand un théâtre reprend vie. Contre le cours global de notre vie politique souvent. Des théâtres renaissent et on se réjouit d'être les premiers avec une création à fouler ce plateau ensemble.
Alors, avant de parler plus en détail, de nous dévoiler un petit peu sur Galilée peut-être, La Jeunesse Aimable, donc quand même... Une compagnie avec un fil directeur qui est quand même une certaine vitalité, création, j'ai une question à vous poser sur est-ce que c'est le texte qui, on va dire, alimente cette compagnie? Qu'est-ce qui l'a fait vivre? C'est le texte, c'est la relation aux comédiens, c'est les rencontres Elle vient d'où?
C'est évidemment tout ça à la fois. Ce qui est certain, c'est que le dénominateur commun, je dirais, entre toutes ces créations dont on vient de parler, c'est effectivement la très grande foi que nous avons dans l'art de l'acteur. Dans l'art de l'acteur, dans son rapport à la parole incarnée. Et donc ce sont des spectacles qui ont en commun effectivement de mettre l'acteur au centre et de faire en sorte qu'il soit le premier à porter les signes du spectacle parce que je suis et je reste convaincu envers et contre tout du fait que le théâtre est un art pauvre par essence, et que c'est ça précisément qui fait sa très très grande puissance. Et c'est ce que j'essaye donc de traduire avec les acteurs de spectacle en spectacle.
Alors je reprends sur la notion de le théâtre est un art pauvre. Pour nos auditeurs, peut-être développer, qu'est-ce que ça veut dire qu'avec peu de moyens, avec peu de choses, avec un acteur,
tout simplement,
pour votre vision
tout simplement,
de cela.
Ça procède d'un constat très simple quand on regarde l'histoire, qui est que le théâtre n'a besoin que d'une personne pour parler et d'une personne pour écouter. Et que notre travail est de ne jamais oublier que c'est d'abord à cet endroit de magie que le théâtre peut advenir. Alors évidemment, ça ne nous empêche pas de travailler à concrétiser des rêves, à réaliser des images, à travailler à toujours plus de clarté. Mais pour moi, l'essentiel reste la parole qu'il y a dans la parole et cet émerveillement que nous avons quand quelqu'un fait l'aventure incroyable de parler devant ses semblables et ses contemporains. Et ça fait 2500 ans que ça dure et on est très heureux de poursuivre cette aventure-là parce que justement, elle n'appartient à aucun temps. Et c'est en ça que je parle d'art pauvre. Ça n'est pas une considération d'ordre économique. Ce serait l'objet de beaucoup de grandes discussions possibles. Mais en l'occurrence, je pense plutôt à cette chose essentielle qui est le fait qu'on peut faire naître des mondes simplement en s'adressant à ceux qui sont en face de nous.
Et en racontant.
Et en racontant.
Donc cette compagnie qui, alors pour faire un petit peu un repérage pour nos auditeurs aussi, qui a commencé où physiquement, enfin vous venez de quel territoire, voilà, c'est alors, comment on fait à escale à Évreux, voilà, dans tout ça.
Alors il y a territoire, il y a territoire dans l'espace et puis il y a territoire dans le temps. Ça remonte à assez longtemps à l'échelle de nos vies respectives en l'occurrence. J'ai créé cette compagnie quand j'étais en classe de seconde à Paris. Et à l'époque, c'était déjà pour mettre en scène les tout premiers textes que, orgueilleusement, j'avais écrit à l'âge de 14-15 ans. Mais le fait est que nous ne nous sommes jamais arrêtés de faire du théâtre. Et donc, sans rentrer dans le détail de cette aventure, ça me paraît important de dire que ça a commencé comme ça, c'est-à-dire passionné de littérature comme on peut l'être à 15 ans, ayant baigné très tôt dans un univers théâtral, j'ai proposé à quelques amis, dont certains travaillent encore avec moi, à l'âge de 15 ans, de monter un premier spectacle, en dehors de nos heures de cours, et de façon déjà à concrétiser, à partager des rêves de textes et de théâtre. Mmh. Et puis, pour expliquer comment nous nous retrouvons aujourd'hui à Évreux, il faut quand même faire mention de la création en 2009, donc il y a 10 ans maintenant, d'un festival qui s'appelle le Nouveau Théâtre Populaire, et dont le principe est de jouer en plein air tous les étés pendant 15 jours deux grands textes de littérature classique et contemporaine au tarif unique de 5 euros la place, de façon à vraiment essayer de réactiver un idéal de théâtre populaire. Et tout simplement, le précédent directeur du Tangram a été, en fait de la scène nationale d'Évreux, a été un des premiers spectateurs de ce festival, et notre rencontre s'est faite de cette manière-là. Et c'est important de le dire parce qu'au fond, il y a quelque chose de l'esprit de ce festival que j'essaye de traduire en compagnie et avec des moyens justement qui sont différents, avec un temps de création qui est différent, mais en tâchant de ne jamais oublier ce qui me semble essentiel et qui est justement ce rapport direct entre le poète, fût-il mort, l'acteur et le spectateur.
Donc ce parcours, en fait, qui est entre salle de théâtre, mais pas que salle de théâtre non plus, qui est un lien à aller chercher le spectateur différemment aussi.
Tout à fait, tout à fait. Il faut tout faire, je crois, pour que ce lien entre l'acteur et le spectateur reste vivant, reste surprenant et se renouvelle. Et pour ça, il faut que les acteurs se renouvellent, mais il faut que le spectateur aussi se renouvelle. Et je dirais que c'est mon obsession dans le travail, c'est-à-dire créer toujours des spectacles, y compris sur des sujets ambitieux comme Galilée, à l'adresse de gens pour qui le théâtre n'est pas une habitude. Je ne suis pas du tout le seul à raisonner de cette manière-là, mais au fond, je dirais que c'est cette idée-là qui est ma boussole. Et d'ailleurs, ça a donné lieu, et Chloé, tu vas pouvoir en parler, ça a donné lieu à la création, par exemple, en marge de ce spectacle sur la vie de Galilée, d'une petite forme dont le principe est de pouvoir se jouer partout dès lors qu'on a 50 chaises à mettre en cercle. Et qui permet de retracer en 40 minutes toute l'histoire de notre rapport à l'univers et aux étoiles.
Alors justement, bah parlons de Galilée. Et on viendra après sur la notion de résidence dans un lieu théâtral italien aussi.
Bien sûr.
Donc, mais bah, parlons de Galilée, du coup, de ce personnage, de cette vision du monde, de cette science. Donc, dans le parcours de création de la compagnie, Falstaff, Cyrano... Alors, Falstaff, un texte de Valerno Varina, qui a d'ailleurs fait ses débuts en mise en scène dans ce théâtre même. On en rediscutera après. Cyrano, texte éminemment classique, connu, voilà. Et Galilée, qui, dans le répertoire du théâtre, est un texte aussi de Brecht, mais pour vous, là, vous allez nous en parler, c'est votre écriture sur ce personnage. Voilà, on est... Est-ce qu'on est dans un parcours? Est-ce qu'on est dans une trilogie? Est-ce qu'il y a du sens par rapport aux précédentes créations? Pourquoi on aboutit à Galilée?
On est tout à fait dans une sorte de trilogie. Même si je m'en suis largement rendu compte après l'avoir fait. On est tout à fait dans une trilogie.
Racontez-nous d'où, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça?
Je me rends compte, a posteriori, que Falstaff, Cyrano, Galilée, indépendamment de la question de savoir si effectivement ça a été écrit aujourd'hui, hier ou avant-hier, sont des personnages qui ont beaucoup en commun.
Déjà, ce sont des personnages.
Nous avons là, ce sont des personnages, ce qui a son importance, dont les trois en fait sont directement inspirés de personnages réels, qui ont réellement vécu, qui ont en commun d'avoir tous vécu pendant le premier XVIIe siècle. Donc il y a aussi une sorte de rendez-vous qui se crée inconsciemment entre notre début de 21e et ce début de 17e. Je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire ou de littérature, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces points de rencontre, sans du tout plaquer une réalité historique sur une autre, mais des thèmes communs à ces deux périodes, et puis ces trois figures tout simplement de l'indépendance, du désir de penser par soi-même, et de la résistance à une pensée majoritaire, à une doctrine et à un ordre établi. Et tout simplement, je crois très fort au théâtre comme école de la désobéissance et par suite de la liberté, et c'est la raison pour laquelle Falstaff, Cyrano et Galilée s'entendent bien dans ce petit panthéon de la compagnie qui s'organise tranquillement.
Alors, du coup, ce personnage de Galilée, il s'interroge là sur un changement extrêmement fort, puisque c'est une autre conception de la Terre, enfin de l'univers. On est au-delà de soi, et en même temps on est soi par rapport à la Terre, mais là on est quand même dans une dimension extraordinaire pour l'époque.
Alors très rapidement, mais pour que tout le monde puisse se faire une idée assez claire, Galilée donc naît en 1564, c'est-à-dire la même année que Shakespeare. J'y tiens beaucoup. Il est mathématicien. Et effectivement, en 1609, il prétend qu'il invente la lunette astronomique. En vrai, il en vole l'invention et il la signe. Mais il prétend qu'il invente la lunette astronomique. En revanche, ce qu'il va faire de tout à fait nouveau, c'est qu'il va oser effectivement la braquer sur les étoiles la nuit. Et il va en déduire que depuis 2000 ans, on fonctionne avec une astronomie qui est caduque. Et donc, il se lance dans 30 ans de combat, qu'on dirait aujourd'hui culturel, pour que le pouvoir en place, c'est-à-dire à l'époque l'Église catholique, admette qu'elle s'est trompée et que la doctrine qui maintient à l'époque que la Terre est fixe et au centre de l'univers est fausse, tout simplement. Et que la réalité scientifique, c'est l'émergence un nouveau mode de pensée, que la réalité scientifique indique que pas du tout, et que la Terre tourne autour du Soleil. Et il n'est pas l'inventeur de cette idée. Nous avons même à l'Antiquité des gens qui l'ont pressenti. mais il va être celui qui va se lancer dans ce combat pour la reconnaissance de cette idée. Et ce qui en fait un personnage de théâtre passionnant, c'est qu'il va tout rater. C'est-à-dire que croyant faire avancer, faire un grand pas à la culture occidentale, européenne, il va au contraire ne réussir qu'à braquer les autorités contre lui et à se faire interdire une première fois en 1616, et puis au cours du procès de 1633, qui aboutit à ce moment traumatisant et pour la science et pour la foi, qui est l'abjuration de Galilée face à l'Inquisition.
Période historique aussi où le cadre politique est extrêmement rigide.
Fort. Où les guerres de religion font rage, où on prend conscience du fait que le monde est fini. Et que on est en train de s'imposer partout autour du globe, et puis moment aussi très profondément sur le terrain social inégalitaire, évidemment, et tout ça, je tiens à le dire, évidemment, en gardant conscience de toutes les différences colossales qui existent entre nos deux époques, mais tout ça quand même crée des points de rencontre qui font qu'aujourd'hui Galilée peut nous sembler un destin très important à raconter au théâtre, y compris en création.
Donc voilà, là c'est ce qui vous met en œuvre, en fait, c'est ce qui vous active en fait sur cette thématique par rapport à ce sujet et puis cette parole aussi sur un plateau, parce que du coup Galilée c'est un personnage sur non. Là, j'en reviens du coup à votre création.
À l'écriture de la pièce.
Voilà. Donc, vous êtes inspiré. Vous l'avez créé totalement, ce Galilée
Je l'ai écrit. Évidemment, il faut quand même mentionner un précédent important. Le très grand Bertolt Brecht est l'auteur de trois versions successives d'une vie de Galilée. Et évidemment, on ne peut pas écrire un Galilée sans avoir un souvenir actif de ce spectacle. Pour la petite histoire, mon propre frère s'appelle Galilée à cause de cette pièce. Et donc forcément, pour moi, c'est un personnage qui a fait partie du paysage très tôt. Par ailleurs, je l'ai écrit, ou en tout cas décidé de le réécrire, aussi parce que, tout simplement, Brecht lui-même disait « il faut toujours réécrire Galilée à la lumière de notre actualité », ce qu'il a fait lui-même de version en version. Écrire Galilée avant ou après Hiroshima n'était pas du tout la même chose. Et il se trouve que nous, il se passe autour de nous, à cause de nous, quelque chose qu'on appelle le réchauffement climatique, et que ça me semblait impossible de raconter l'histoire de Galilée sans avoir ça plus que dans un coin de la tête, d'avoir ça comme obsession, comme moteur et comme nécessité nouvelle à raconter cette histoire. Et je me suis rendu compte que plutôt que de prendre la pièce de Brecht et de la tordre dans tous les sens pour faire exister cette dimension-là qui est notre dimension collective aujourd'hui, il valait mieux se retrousser les manches et écrire une pièce nouvelle sur ce sujet-là, pour raconter justement un moment où tout bascule. Parce que pour nous, tout est en train de basculer, comme à l'époque, pour les Vénitiens de 1610, tout a basculé. Notre représentation du monde, dans un délai qui non seulement est bref, mais en fait qui est déjà écoulé, doit changer. Et il en va de même pour les dogmatiques de 1630 qui ont dû admettre à leur corps défendant qu'ils n'étaient pas au centre du monde. Et j'aime beaucoup cette citation de, je crois que c'est Mark Twain, l'histoire ne bégaye pas, elle rime. Et je crois que c'est un cas où réellement l'histoire rime. C'est-à-dire que les mots sont différents, mais ils rendent le même son. Et en l'occurrence, il y a un vertige, une terreur, une joie entre 1610 et 1630. Et il y a un vertige, une terreur et une joie pour nous maintenant. Mmh. Je le crois très profondément, et c'est sur ce sujet-là que je nous ai lancé en création au Théâtre Le Genre.
Bien, hâte de voir maintenant, de voir sur ce sujet qui est au cœur de finalement au cœur de nos vies, hein, dans nos préoccupations, c'est vrai. Pour terminer, parce que le temps passe
déjà
très très, très vite, très vrai. Je voulais qu'on discute 2-3 minutes autour justement de votre présence de création. Là, dans ce théâtre à l'italienne, sur un texte d'un personnage à l'italienne, dans cette continuité historique de ce lieu de création, qui a été longtemps le théâtre Le Gendre, alors, puisque de nombreuses créations se sont faites avant sa fermeture, et voilà, donc il y a quand même un lien, on va dire, une tradition, une continuité dans laquelle vous êtes aussi. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un théâtre à l'italienne? Alors, j'explique pour nos auditeurs, un théâtre à l'italienne, petite bonbonnière, c'est un théâtre fait plus pour être vu, que les spectateurs se voient entre eux, que voir la salle. C'est un lieu historique, c'est une pente à 4,5% pour le plateau, c'est tout ça. Et c'est une histoire, parce qu'on sent l'histoire aussi derrière.
Et c'est de la beauté.
Et c'est de la beauté.
Et c'est de la beauté.
Et c'est de la beauté rénovée dans une très belle rénovation.
Tout aussi. À fait. Il y a beaucoup d'aspects à cette question. Effectivement, raconter l'histoire d'un Italien dans un théâtre à l'italienne, au-delà du jeu de mots, c'est vrai que c'est, en tout cas, que c'est amusant, émouvant, et que ça trouve son sens. Ça trouve d'autant plus son sens que notre scénographie, comme la cosmologie d'Aristote qui précède Galilée, est circulaire, et que donc elle se complète merveilleusement avec les balcons qui eux aussi sont circulaires, ce qui nous permet d'intégrer les spectateurs comme autant d'étoiles sur notre 8e sphère ptoléméenne. C'est un théâtre qui a une histoire, qui a été fermé pendant 13 ans si j'ai bien compris, et en faire la réouverture, c'est l'occasion de s'émouvoir aussi de cette connaissance. Il y a des acteurs que nous avons beaucoup admirés qui ont fait leur premier pas sur ce plateau. Céline Chéen, qui joue dans Galilée, nous a dit le premier jour à notre arrivée qu'elle avait joué ici une date de La Servante d'Olivier Py en 1995. Et dans les lieux importants comme celui-là, on joue toujours en équipe avec les gens qui ont joué avant nous. Et c'est ce qu'on ressent très fort depuis qu'on est là. La dernière chose importante à dire, il me semble, à ce sujet, c'est aussi que on a la joie de faire cette création main dans la main avec l'équipe technique aussi du lieu, qui elle aussi est, ça se ressent dans une émotion et une joie à l'idée que ce théâtre réouvre, et donc met tout son cœur et son talent au service de cette création. Et donc vraiment, il y a un sentiment rare de travailler tous dans le même sens pour être prêts autant que possible le 14 novembre pour la première.
Eh bien, rendez-vous est pris.
Rendez-vous est pris.
Bon travail d'ici là encore. Et puis, eh bien, peut-être à une prochaine aussi, un prochain rendez-vous sur nos ondes pour d'autres aventures, ou même à après Galilée. Avec plaisir. Bah, merci.
Merci. Thank you.
Am I a hero? Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? It's on the news again. I guess they killed the mother. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now.
Mikael Kiwanuka avec le titre Hero, on dit comme ça Hero.
Hero, oui, bah oui. Ah oui, il fait une actualité là, il vient de sortir son nouvel album Soul du nom, du même nom. Donc voilà, une découverte que j'aime bien, un bon son funk et groove.
Et ceci nous amène vers le dernière ligne droite de cette émission, à savoir, nous allons passer à l'agenda non exhaustif de ce qui a attiré notre attention sur le mois de novembre.
On peut... Ouais,
ouais bah vas-y.
C'est vous qui voyez, là, c'est vous qui voyez, a priori,
les agendas sont pleins. On est trop raccord, on en a quoi dire.
Non, j'allais dire, on peut peut-être déjà faire les petits rappels de ce qu'on a annoncé en début d'émission. Galilée par la jeunesse aimable au Théâtre Le Gendre, les 14 et 15 novembre prochains. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ou découvrir Grand Messe le 29 novembre au Tetris au Havre. En fait, ce concert est programmé dans le cadre du festival Piano is Not Dead. Voilà, vous avez toutes les infos sur le site du Tetris, bien entendu. Et puis voilà, et là...
L'actualité du mois, quand même, événement majeur, c'est le 10e salon du livre jeunesse à Évreux.
Oui.
Organisé par les réseaux des bibliothèques d'Évreux.
C'est ça, et dont le Tangram est partenaire depuis, que je ne me trompe pas, 4 ans, je crois, 5 ans maintenant. Oula, je ne sais plus.
Non, mais on sait très bien que dans notre émission, on a un petit problème.
Alors, avec un peu d'assurance,
avec
ça passe.
Non, ouais.
Avec un peu d'assurance, peu importe le nombre d'années que tu dis, ça passe.
Ça fait 5 ans. Voilà, ça passe, bref.
Et nous ne contesterons pas.
Bon, tout ça n'est pas très important. Donc oui, effectivement, la 10e édition du Salon du Livre Jeunesse. Petit changement cette année. Le salon aura lieu place du Général de Gaulle, entre le Théâtre Le Gendre et la médiathèque. Comme tous les ans, hein, vous pouvez. Il y a un éditeur donc qui est mis à l'honneur cette année. C'est l'éditeur Les Grandes Personnes, qui se distingue particulièrement avec des livres animés ou aux formes originales. Donc, ils seront présents. Il y aura notamment une exposition. Exposition que vous pourrez aussi découvrir un petit peu avant, puis un petit peu après. Le festival. Voilà. Le Tangram, on programme donc deux rendez-vous sur tout le week-end. Un premier rendez-vous pour les plus grands à partir de novembre qui s'appelle J'ai trop peur, qui est un texte et une mise en scène de David Lescaut. Ça dure 50 minutes et là, on est dans la tête, dans l'esprit, on est avec un jeune garçon qui s'apprête à entrer en sixième. C'est les vacances et à la rentrée en septembre, il entre en sixième. Et là, c'est le drame. C'est l'horreur absolue, pour reprendre ses mots.
Ah, voilà. On va chez les grands.
Ouais, et c'est panique à bord.
Ah oui.
Voilà. Donc ouais. Il est vraiment dans l'angoisse de cette rentrée en sixième au collège. Il a presque même envisagé d'essayer de redoubler son CM2 pour ne surtout pas entrer en sixième. On est dans sa tête, on participe à ses réflexions, il est un petit peu perdu. Et puis, ses parents qui sont un peu désœuvrés, parce qu'ils voient bien que leur grand petit garçon, sait pas trop comment se situer, n'ont pas d'autre idée que de lui faire rencontrer Francis, élève, lui, qui est en quatrième, et qui lui dépeint une image du collège qui est loin, très très loin de rassurer ce jeune homme. Voilà. C'est un spectacle qui est très tendre. C'est un spectacle qui est très très drôle aussi. On se rapproche aussi du théâtre de Tréteaux parce que sur le plateau, il y a rien si ce n'est un cube de bois qui va être tour à tour la chambre de notre petit ado, la plage, le terrain de jeu de sa petite sœur, parce que oui, j'ai oublié de vous dire qu'il avait sa petite sœur de 2 ans et demi qui, effectivement, elle, du haut de ses 2 ans et demi, ne voit pas du tout les choses de la même façon, qui arrête pas de lui dire « Mais arrête, c'est pas très très grave tout ça, t'inquiète pas. » Voilà. Et puis, y a 3 comédiennes donc qui interprètent excellemment les rôles de chaque personnage. Donc, ce jeune homme, sa petite sœur et ce fameux Francis, voilà, c'est vraiment une petite pépite, c'est un bonheur. Alors pourquoi cette programmation dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse? Parce qu'il y a un vrai rapport à la langue, au texte, et parce que, on le redit souvent, la littérature jeunesse intègre maintenant tout ce qui est théâtre pour la jeunesse, et il y a une pléthore de propositions, et en plus on le sait, le théâtre pour les enfants, pour les plus jeunes, c'est vraiment une façon de découvrir la lecture, de rentrer dans la lecture, de rentrer dans les textes, de rentrer dans la langue, d'une façon hyper hyper ludique en fait. Voilà, donc ça, ce sera le samedi à 15h, samedi 23 novembre, et on n'a pas oublié les plus petits, puisque le dimanche, pour 2 représentations, une à 11h30 et une à 15h30, on retrouvera Transit. Transit, c'est un spectacle de marionnettes qui est mis en scène par le théâtre pour demain, sur un texte de Laura Silampa et une mise en scène donc de Pascal Vergniaud. Sur le plateau, on a une marionnette et une manipulatrice comédienne on va rentrer en fait dans un atelier de dessin, un atelier d'artiste. Et cette petite marionnette qui apparaît va nous raconter son parcours et va nous embarquer dans son histoire, dans l'histoire qu'on découvrira, qui est en fait l'histoire de l'enfance de sa manipulatrice. Voilà, on évolue, elle évolue, cette petite marionnette, dans un monde qui est dessiné en direct par des projections vidéo sur des grands laits de papier. Voilà. Et parfois aussi dessiné par donc la comédienne manipulatrice en live. Voilà, et tout ça, c'est au théâtre Le Gendre, tout le week-end, donc samedi et dimanche. De 3 rendez-vous en tout. Et puis, tout au long du week-end, alors le Salon du Livre commence dès le vendredi pour les accueils des groupes scolaires et se poursuit donc jusqu'au dimanche, ouvert donc samedi, dimanche au tout public. Et il y a vraiment plein d'animations. En plus des spectacles, il y a des rencontres avec les auteurs présents, avec les illustrateurs. J'ai vu qu'ils faisaient même un escape game à la recherche du livre perdu. Vraiment, je vous recommande d'aller faire un tour sur le nouveau site de la médiathèque d'Evreux, qui est très très bien fait, et vous avez toutes les infos de ce 10e salon du livre jeunesse.
Eh bien, ça donne vraiment envie d'aller faire un petit tour sur la place le 22, 23 et 24.
Non, alors, je reprécise juste une petite précision pour les spectacles. Si je vous conseille de réserver vos places, là, c'est auprès de la billetterie du Tangram. Voilà.
Voilà.
Nathalie,
oui,
des dates aussi, sûrement.
Écoutez, oui, qui arrive très prochainement. Nous avons donc un spectacle de cirque à Louviers, mardi 12 novembre à 20h au théâtre du Grand Forum, pardon, Hoptraken, où là, nous avons 5 hommes circassiens qui vont... ça ne va pas arrêter sur le plateau. En fait, on est dans un espace où tout va leur tomber dessus, c'est le cas de le dire. C'est quand tout nous tombe dessus, mais que ça soit physiquement parlant, le plafond qui nous tombe sur la tête ou le ciel qui nous tombe sur la tête, comme disaient les Gaulois. Comment le corps, comment le groupe peut esquiver, échapper à ce qui peut nous tomber sur la tête. Donc c'est toute une parade de l'esquive qui vous est proposée sur le plateau et ça déménage sec. Je peux vous dire, ça déménage dur. Hein. On aura quelques petits éléments de poussière sur l'épaule à la fin de la représentation. Mais voilà, je vous le conseille. C'est rythmé, engagé et ça n'arrête pas. Voilà, donc ça, c'était... je peux continuer avec un.
Est-ce
que je peux continuer avec
Est-ce que j'ai le droit?
Est-ce que j'ai le droit? Donc, pour les nostalgiques, De la New Wave. Ouais. Peut-être qu'on se rappelle de Loy Cold and the Commotion dans les années 80, qui voilà, avait un grand parcours international. Et là, le Tangram accueille Loy Cold en acoustique, guitare, seul, avec un concert au théâtre Legendre qui sera programmé eh bien, le même soir que Hoptraken, le 12 novembre, au théâtre Legendre. Mais après, il y a plein de choses.
Dès ce soir.
Oui.
Moi, j'en rajoute juste une petite. Ce soir, vous pourrez retrouver Maxence au Cube, donc à Évreux, à partir de 20h.
Oui, vas-y.
J'en profite. Moi, j'ai 4 petits zooms à vous proposer. Le premier, c'est le Solidact Reggae le 15 et 16 novembre. Je me permets juste d'insister sur la soirée du 15 parce que le 16, effectivement, c'est Generation. C'est programmé, c'est dans les tours et ça tourne. Il y a le vendredi soir, le 15, où il y aura tout un plateau avec énormément d'artistes. Oui. Alors là, je peux pas vous les nommer tous. Non, hein, c'est Ambiance Sound System. Ça va jouer également sur scène. Donc c'est la première soirée du Solidact Reggae, c'est le 15 novembre. Le 20 novembre, dans le cadre de la Semaine Bleue, peut-être ça vous parle pas, la Semaine Bleue, c'est en fait une semaine qui met à l'honneur les seniors, les personnes retraitées, jeunes retraités, anciens retraités, carrément. et à cette occasion-là, est organisée au Hall des Expos le 20 novembre, une journée de valorisation des seniors. Mm-hmm. Alors, je sais pas si c'est le titre définitif, mais il y avait un truc autour des seniors ont du talent ou un truc du genre. En tout cas, c'est un temps de valorisation, surtout de la pratique artistique amateur des seniors. Il y aura notamment du théâtre et de la musique qui vous sera proposée sur cette journée. C'est Hall des Expositions. L'entrée est gratuite, bien entendu. Et voilà, c'est voir un petit peu le dynamisme de nos seniors sur scène. le 27 novembre, principe actif par en live, s'emparera du cube, du club pour vous proposer le meilleur de nous-mêmes. Et si c'est pas le meilleur de nous-mêmes, ce sera le pire de nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, nous donnerons le maximum, dans un sens comme dans un autre. C'est principe actif par en live, c'est aussi gratuit. Venez assister, partager avec nous cette émission de radio et du live, bien entendu, que vous retrouverez sur cette scène du Cube. Voilà, le rendez-vous est pris. C'est donc le 27 novembre au Club du Cube. C'est Principe Actif qui invite. C'est bien quand c'est dit comme ça.
Parfait, parfait.
Le 29 novembre, le Tangram et la MJC coproduisent une journée soirée autour du jazz avec toute une partie médiation culturelle où des jeunes vont découvrir ce qu'est le jazz avec le jazz club de la MJC qui se produira sur scène. Et à l'issue de ça, il y aura une rencontre entre les musiciens et les élèves. C'est plutôt pas mal. Mais ça s'adresse pas forcément au grand public. Ça s'adresse surtout à des collégiens déjà inscrits dans le cursus. Mais le soir, vous aurez l'occasion, ce 29 novembre, de voir Sacha Neymar en trio sur le plateau du Cube. Et ça, c'est la classe, parce que c'est un grand musicien du coin, et ça fait toujours plaisir. Et puis, juste pour conclure, le 28 novembre, au Manège Tilly, c'est le département qui organise une soirée rockabilly. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans ou il y a un an, un peu plus d'un an, c'était les photos de Gilles Rigoulet qui étaient exposées sur le comptoir des loisirs. Voilà, une belle expo rockabilly. C'est sympa d'ailleurs, sur Évreux, c'est donc toute l'air rockabilly à Évreux. Un documentaire va sortir dans très peu de temps et l'avant-première se fera au manège de Tilly le 28 novembre. Il y aura également un concert de rockabilly de proposer ce soir-là. Ce sont les Hot Slap de Rouen qui viendront nous enjailler, comme on dit, dans le milieu. L'occasion aussi de refaire un petit tour du côté de We Love Rock'n'Roll, parce qu'il y aura la projection d'une partie de la performance de We Love Rock'n'Roll. Voyez, c'est une soirée rock'n'roll au manège Tilly, exactement. J'étais en train de chercher au manège de quoi, au manège de qui, au manège Tilly. Oh pardon, non, ça fait un mauvais lancement.
Ça marche pas
du tout. Mais en tout cas, c'est une soirée rockabilly qui se déroulera le 28 novembre. Voilà ce que j'ai repéré moi.
Eh ben super.
Entre autres, hein, bien sûr. Après, oui, soyez curieux, allez fureter sur les internets, dans les journaux, voilà, auprès de diverses salles du territoire. Voilà, il y a plein de trucs à voir. Juste, soyez curieux et sortez.
Exactement. Cécile, c'est toi qui vas trancher. Nous ne l'avons toujours pas fait sur notre extrait sonore de film.
Quelle responsabilité.
Et en fonction de cet extrait sonore, on verra ce qu'on aura à vous dire.
On lance la bonne piste.
Mais je crois qu'on va partir sur Super Vixen. Allez, voilà, c'est la plus radiophonique de toutes nos pistes. Après, bien sûr, là aussi pour le cinéma, soyez curieux. Il y a plein de rendez-vous à ne pas louper au mois de novembre. Donc voilà, on y va. J'ai tranché, il n'est pas projeté sur un grand écran, mais tant pis, j'assume.
C'est effectivement Super Vixen, un film de Russ Meyer de 1975, où les codes ont bougé en 75. On sent tout ce vent de liberté qui souffle, et également sur le cinéma. C'est quelque chose, je suis pas certain que ça puisse être refilmé tel quel actuellement. Ça poserait beaucoup trop de problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie des monuments du cinéma burlesco, d'action, érotique, qu'on veut bien. En tout cas, c'est du second degré du début à la fin. Ça fait partie des monuments du cinéma.
Et c'est drôle.
C'est surtout drôle. Film de Russ Meyer, 1975, Super Vixen. Alors, ça se trouve encore sur les plateformes ou dans la vidéothèque, j'imagine.
Allez.
Je suis même sûr qu'il y a la médiathèque qui l'ont. C'est obligé quand même, un truc comme ça.
Ça peut être suggéré aussi.
Ça peut être suggéré. Voilà. Sur ce, nous vous laissons avec du coup cet extrait de film. C'est Super Vixen.
Meyer, le Fellini sauvage, vous offre un film colossal. Fait pour les jeunes comme pour les moins jeunes, pour les snobs comme pour les prolétaires. Un film créé pour divertir, un film plein de vibrations étranges, dures, qui vous tiendra en haleine, et pourtant si drôle dans sa présentation. Super Vixen, de Russ Meyer. une attaque sans ménagement de la morale sexuelle moderne et plus encore, une attaque directe de l'émancipation de la femme, abattant le syndrome sadomasochiste de l'homme, abattant tout ce qui est conventionnel, conviction, tabou, obsession. Tout y est représenté et démoli. Flic, voleur, nymphomane, patron abusif, militaire névrosé, femme infidèle, les impuissants, les impotents, les forts au lit, les orgasmes éclatants, les cocus, les fixations mammaires, les antifellationnistes, les abus d'individualité, la mort, la réincarnation. Super Vixen de Rosmeyer, un exercice cinématographique de grande beauté. Six des plus belles filles du monde, ah oui, six, comme seul Rosmeyer pouvait vous offrir. Les super filles de Rosmeyer, un régal pour vous.
Oh ben j'espère que je vais pouvoir aller le voir ce film.
Oui, vous ferez bien, sinon vous allez louper.